FM 93.
FM 93, ça me parle.
Pascal CV.
Allô?
Bon matin.
Salut.
Aux nouvelles.
Ouais, ben le centre-ville de Barcelone a été plongé dans un véritable chaos au cours des dernières heures. Des violents affrontements entre militants indépendantistes radicaux et forces de l'ordre sont survenus au terme d'une manifestation. Plus de 500 000 manifestants protestaient contre des peines de prison imposées à des dirigeants indépendantistes plus tôt cette semaine. Aucun bilan des affrontements n'a encore été communiqué. Un nouveau rebondissement dans le procès de Nathalie Normando, un procès dont la date n'a pas encore été fixée, bien que l'ex-vice-première ministre et ses co-accusés aient été arrêtés en mars 2016.
J'ai le vague sentiment que c'est un procès qui n'aura jamais lieu.
Ça ressemble un peu à ça pour le moment. L'avocat de Mario W. Martel a déposé ce vendredi une nouvelle requête en arrêt des procédures. Les avocats estiment entre autres que les policiers de l'UPAC n'ont pas suivi le processus pour faire de Martin Lapointe un témoin collaborateur. Rappelons que Nathalie Normando est toujours accusée d'avoir souscrit frauduleusement à une caisse électorale et d'abus de confiance. Et je termine avec Régis Labombe qui annonçait hier que la ville de Québec décaissera 500 000 $ de plus pour le diamant de Robert Lepage. Selon le maire, l'octroi d'argent supplémentaire servira pour l'acquisition d'équipements nécessaires au bon fonctionnement d'un lieu de culture de cette qualité. Rappelons que la ville avait déjà investi 7 millions de $ dans le théâtre. Régis Labombe a dit ne pas agir de gaieté de cœur et a conclu en affirmant qu'il s'agissait d'un paiement final.
Parce qu'ils ont déjà rajouté 1,9 million la semaine passée, 500 000 cette semaine. Alléluia, tout va bien. Au sport!
Ben, les Remparts de Québec ont réussi à venir à bout d'Alexis Lafrenière, qui a été blanchi pour la toute deuxième fois de la saison. Il avait été blanchi au premier match, mais là, c'est la première fois. 11 matchs qu'Alexis Lafrenière ne récolte pas de points. L'Océanique a vaincu Québec 2-1 pour mettre fin à une séquence de victoires pour première fois en 7 matchs. Une défaite pour Québec qui va tenter de venger cette défaite-là demain du côté de Rimouski. Du côté de Montréal, les Canadiens se préparent pour 2 matchs en 2 jours sur la route. Ça commence cet après-midi à 15h face aux Blues à Saint-Louis. Demain, Montréal est au Minnesota pour y affronter le Wild à 17h. Claude Julien a dit qu'il voulait utiliser ses deux gardiens, mais on ne sait pas qui va jouer quand. Dans la Ligue nationale de hockey, le premier choix au repêchage de 2017, Nico Hischier a signé une prolongation de contrat de 50,75 millions de $ sur 7 ans avec les Devils du New Jersey. C'est sa dernière année de contrat actuellement. Puis d'ailleurs, les Devils le prouvent que leur saison va mal. Ils ont connu leur première victoire de la saison jeudi face aux Rangers. Ailleurs, dans la Ligue nationale, le défenseur des Capitals, John Carlson, a ajouté 3 passes à sa fiche dans une victoire de 5-2 de Washington. Il trône actuellement au sommet des pointeurs de la Ligue nationale de hockey avec Connor McDavid avec 17 points. Et en terminant, au baseball, les Yankees de New York n'ont pas dit leur dernier mot et se sont imposés 4-1 hier face aux Astros dans le championnat de l'Américaine. Ils tirent de l'arrière 3-2 dans la série et vont tenter de venger leur défaite. Le prochain match, c'est ce soir. Ils vont tenter d'aller rejoindre les Nationals de Washington en finale.
À 7h04, je suis obligé de vous dire qu'il fait juste 2 degrés actuellement sur Québec et qu'on a eu du gel au cours des dernières heures. J'irais même alentour, là, dans la banlieue. Si on s'approche dangereusement du centre de Québec pour un beau zéro un matin. Aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages, un dégagement tard cet après-midi avec un peu de vent, mais rien comparé à ce qu'on a connu au cours des derniers jours. Un maximum de 8 degrés pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, il y aura quelques nuages avec des nappes de brouillard. Minimum de moins 3. Sauf près du fleuve, là, il y a peut-être un zéro, puis on va peut-être échapper au gel.
Des fenêtres frostées.
Ça s'en vient. Avez-vous vos grattoirs? Dimanche, alternance de soleil et nuages, 9 degrés de maximum. Et lundi, ensoleillé avec 13. Les auditeurs sont réveillés un matin. Il y a déjà des messages qui rentrent au sujet de la petite phrase que j'ai lancée sur Valérie Plante qui enfarge les conservateurs. On y reviendra dans quelques instants. C'est d'ailleurs le titre du Soleil aujourd'hui. Épine pour le tramway. Montréal pourrait reprendre les 800 millions laissés à Québec pour son projet de transport structurant advenant un changement de gouvernement. L'auditeur a raison. Je suis pas sûr que ça enfarge juste les conservateurs. Ça nous rappelle aussi comment les libéraux nous ont obligés à aller quêter Montréal pour avoir le droit à un peu de transport en commun. Ça nous rappelle aussi à quel point les libéraux de Québec et d'Ottawa ont comploté pour graisser Montréal de façon scandaleuse dans les enveloppes pour le transport en commun. Le chaos à Barcelone est l'autre gros titre du Soleil. Pascal nous en a parlé. Puis il y a quelques petites choses là. Si ceux qui s'intéressent à la disque, on nous présente cinq recrues, si je peux dire, des gens qui vont probablement briller à la disque et dont vous n'aurez entendu parler pas beaucoup.
Mais ce soir là ou deux jours avant là.
L'heure du choix, c'est le titre du Journal de Québec aujourd'hui, qui en profite pour dire où vont vos impôts à Ottawa et pour publier une espèce de grand tableau pour démontrer où va l'argent que nous versons à Ottawa via nos impôts. C'est pas mal le seul titre intéressant. Hein?
Ça sent la fin de la campagne, là, je trouve.
Oui, oui, ben, traditionnellement, je dirais, les politiciens, ils ont parlé pendant un mois et demi, deux mois, là. Même trois si on compte l'été.
Moi,
là.
Je pense que oui, trois, ouais.
Bon, ça fait trois mois qu'ils placotent. On peut-tu réfléchir en silence pour les 48 prochaines heures?
On peut s'arrêter de se faire parler dans l'oreille. En même temps, ils veulent pas s'échapper là, à 48 heures du scrutin.
C'est ça. Alors, il y a deux intérêts. Ils vont se mettre un peu babino-neutre pour éviter de s'échapper, comme tu le dis. Puis deuxièmement, ils vont aussi, je pense, c'est sain, laisser réfléchir les gens tranquilles puis en paix.
Mais en même temps, on a entendu babiller pendant trois mois, mais on dirait que j'ai rien retenu de pertinent.
Ah oui, mais plus tu babilles, moins t'entends. Hein? Ça, c'est...
C'est devenu comme un bruit de fond.
Oui, c'est voyant.
C'est devenu comme un bruit de fond. Bon, ben, de toute façon, on fera peut-être une petite récapitulation demain. Sous le signe de l'humour, parce qu'il y a eu certaines choses très drôles durant cette campagne-là, et on peut pas dire qu'on ait vu s'affronter des titans de la politique.
Ouf! Ouf! On n'était pas dans de gros affrontements, de grosses pointures, hein?
Le Devoir titre avec Pierre Lapointe, Le Chapelet des Merveilles. J'ai écouté son nouvel album hier rapidement. Je te l'ai amené, Pascal, si tu veux mettre
ben
une
oui,
oreille dessus.
Suis.
Et Isabelle va nous en parler également. Ils reviennent avec De Gaulle en son siècle. Une grande entrevue sur le général De Gaulle. Et puis, l'heure du choix. C'est-à-dire
les élections.
Puis là, il y a 4-5 pages sur le dernier baroud d'honneur là, qu'on fait avec les élections. Et dans la Presse Plus, il faudrait que je retrouve la page frontispice de la Presse Plus. Qui sont les ministrables? On nomme chez les libéraux Lightband, qui pourrait bien remplacer Duclos comme ministre régional si les libéraux sauvaient leur couenne et leur gouvernement. Et on nomme Gérard Deltel du côté des conservateurs comme des ministrables possibles. On nous apprend aussi dans la presse, c'est pas la une, que Gertrude Bourdon serait la candidate des libéraux dans Jean Talon.
Mais non, arrête.
Puis qu'on attend après l'élection de lundi pour que les libéraux provinciaux nous annoncent que c'est le retour de Gertrude.
Gertrude était cachée, puis on la ressort.
Oh, mon Dieu.
Ah, c'est extraordinaire.
Ah, mais ça, c'est un gag, ça. Ben, c'est incroyable.
On va attendre, mais écoute, c'est genre, c'est belle avance là, dans la presse.
OK, et Joël Denis.
Généralement, il est assez bien branché.
Non, mais c'est risible, là, Myriam. Là.
Mais en même temps, tu dis, elle a tout perdu. T'sais, rendu là, toute sa crédibilité de parti en parti, elle a tout perdu.
Il semble que ce soit le choix par défaut, là.
Oh, okay.
D'après ce que Belle Avance dit, il y en a en prochaine trentaine. Pour se résoudre.
Elle accepterait ça. D'habitude, c'est elle qui a le gros bout du bâton.
Ben, ouais, mais là, elle a réalisé qu'elle était pas mal pognée avec le petit bout, finalement.
Tu sais, elle était PDG quand même.
Mais, non, mais
elle
c'est
était
une
PDG.
Femme de tête.
Elle s'est présentée en politique en pensant être ministre et ramasser un salaire de 200 000 ou à peu près. Puis là, elle se retrouve sur le carreau. Son ancien patron a pas voulu d'elle parce que ça se trouve que diriger un hôpital dans un gouvernement que tu as tenté de faire battre aux dernières élections,
c'est moyen.
C'est comme moyen. Encore que tu peux faire une très bonne job comme administrateur. Indépendamment de la politique.
Oui, mais ça met un certain froid dans la relation. Là. C'est plus gênant.
C'est ça. On nous écrit le retour de Gertrude, le signe que les libéraux apprennent de leurs erreurs.
Ben là, après ça, ressortons alors Jean Charest, tant qu'à y être.
Mais il semble que Gaétan Barrette lui voit de belles qualités à Mme Bourdon que nous n'avons pas vues lors de la campagne électorale. Peut-être que la prise 2 va nous permettre de les entrevoir.
Mais en même temps, tu peux pas être une femme de tête comme elle, ce qu'elle semble démontrer, puis pas avoir les capacités de le faire. La seule chose, c'est que, ouais, c'est ça, l'image est un peu affectée. Mais en même temps, on parle de politique spectacle, puis on n'en veut plus.
Il est 7h11, si on se brassait le coco un peu.
Parce qu'il y a plus dans trois cocos que dans un, voici le Brasse Coco.
Pascal, t'as toi lourd.
T'as toi lourd. Si je vous demandais combien de jours vous voulez travailler par semaine, vous me répondriez quoi?
Alors, moi, je
vous l'offre, là.
Moi, je pense que l'idéal, c'est 3 ou 4 jours. Moi, je serais prête à faire des journées de 12 heures, 3 jours.
Pour au moins encaisser quand même un 35 heures, 40 heures par semaine pour faire de l'argent quand même.
Ouais, moi, j'ai
compte, là.
Moi,
seulement plus, faire de l'argent pour être productif, tu sais, à un moment donné.
Faire quelque chose.
T'as une force de travail que tu dois de pouvoir donner. Moi, j'ai déjà travaillé 7 jours par semaine.
Mais t'as des comptes à payer aussi. Ouais, mais toi, ton horaire est, on en parlait justement hier avec Paul Raphaël, il était assez rocambolesque il y a quelques années, là.
Oui, oui. J'ai eu un petit 2 ans où j'ai travaillé 7 jours par semaine.
Se lever à 4 heures du matin, faire 5 chroniques par matin dans différents réseaux, aller enseigner toute la journée puis faire la chose.
Et vois-tu, je suis prête pour ma retraite.
T'es prête. T'as tout donné. Toi, Alexis?
Ben, moi, honnêtement, 10 heures par jour, à 4 jours semaine, ça se fait bien. Là. Je veux dire, moi, dans la vie, je suis quand même quelqu'un qui travaille assez pas mal. Là. Je veux dire, à ces temps-ci, c'est pas mal du 7 jours semaine puis ça arrête pas bien moins. Là. Mais 4 jours semaine, 3, je serais pas prêt à descendre à 3. L'impression que 4 jours de congé, là, tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais je trouverais ça bizarre d'avoir plus de congés que de jours où je travaille. Pas parce que je saurais pas quoi faire, parce que ma tête serait ailleurs. Je serais pas prêt à retourner travailler. Je trouverais ça beaucoup trop dur à chaque fois.
Sauf que ça, c'est pas une conception de société qu'on a montée nous-mêmes. De devoir travailler plus
ben
que
non,
notre...
C'est, moi,
non,
je te dis...
non, on a bien plus de temps libre que de travail. J'ai déjà fait des démonstrations comme ça à mes fils. Je dis, regarde, dans une journée, tu te lèves à 8 heures, tu te couches à 10 heures. T'as du temps dans une journée. Le travail occupe à peine le tiers de ton temps dans une journée.
Tes fils en avaient du temps. Mais aussitôt que t'es mère, que t'es adulte, t'as des responsabilités, tu dois faire à manger.
Mais ce temps-là, ce temps-là, tu l'occupes d'une manière différente. Mais toi, tu veux travailler combien?
Je pense qu'un 4 jours, ce serait bien, mais mon 5e jour serait tampon, dans le sens où si j'ai pas terminé mon travail, si je veux en faire plus, je me permettrais quand même le travail.
Mais c'est ça, c'est pour ça que je te disais, moi, 3 jours, là, la problématique que je voyais là, c'est que tes 4 jours de congé vont tellement te faire décrocher que je trouverais ça trop dur à chaque semaine de recommencer.
Comme le retour des vacances.
Ben, c'est ça, c'est que t'as toujours une petite vacance où, tu sais, quand t'as une fin de semaine de 3 jours et que t'en as profité pour vrai que t'es parti ailleurs, tu reviens le lundi, t'es comme tabarouette, c'est pas évident, imagine ça à chaque semaine. C'est pour ça que 3 jours, je pense, c'est l'idéal et j'ai toujours jamais compris celui qui avait conçu la semaine à quel point ça avait été inéquitable. 5 jours où on travaille la semaine puis 2 jours de fin de semaine, là, c'est pas égal, là.
Mais... Ben, c'est égal en ce sens que dans une journée. Attends un peu, il faut que je calcule. 2, 8 à 8, ça fait 12, 13, 14. T'as 14 heures dans une journée.
Où t'es levé.
Où t'es actif. Mais mettons que tu prends 1 heure pour manger, il t'en reste 13.
Okay, ouais.
Bon, mais 1 heure pour te laver, s'occuper de toi un petit peu.
Te mettre propre.
T'en reste encore 12. Tu travailles 7 heures. Il t'en reste encore 5. C'est du stock, 5 heures. Là, on en fait des affaires pendant 5 heures.
Ça passe vite. Il y a Maryse qui dit, moi, mon horaire idéal, ce serait 4 jours par semaine, 9 heures par jour. Et pourquoi on en parle? C'est que de plus en plus d'études qui évaluent ce serait quoi le meilleur scénario pour l'être humain. On a beaucoup d'arguments en faveur d'une réduction de temps de travail, puis c'est pas nécessairement les syndicats qui en parlent, c'est vraiment des études. On dit que des semaines plus courtes permettraient d'avoir plus de temps pour se réaliser et puis d'exister en dehors du travail, ce qui fait en sorte qu'on a une meilleure vie. Et quand on a une meilleure vie, qu'on se sent plus accompli, qu'on n'a pas le focus sur une seule chose, on est capable de réaliser encore plus de choses. Donc, la productivité est augmentée à ce moment-là. Moins de journées de travail, plus intense, paraît qu'on devient plus productif, entre autres. C'est un des arguments.
Oui, mais moi, je crois ça. Moi, moi, quand je suis dans une tâche, je déteste m'interrompre. Je me rappelle mes premières années là où on faisait un projet comment ça s'appelle?
Projet personnel?
Non, perspective genièse. Non, c'était Perspective Jeunesse. C'était des façons de subventionner des emplois étudiants à l'époque. Et je détestais ça parce que mes collègues, ils s'arrêtaient à 10 heures pour un break d'un quart d'heure, qui durait en réalité 20-25 minutes. Ils s'arrêtaient de nouveau à midi pour le dîner. Ils s'arrêtaient encore en après-midi.
Mm-hmm.
Je déteste ça, moi. Manger sur le coin de la table en faisant mon travail, c'est parfait.
On le clenche, hein? Une bonne expression québécoise. Des fois, là, Myriam, je suis tellement d'accord à ce que tu dis. Je suis tellement tannée d'être au bureau parce que où je travaille, c'est la porte d'entrée puis la porte de sortie de tout le monde. Fait que tout le monde arrête, tout le monde repart, regarde dans la porte.
Tout le monde veut te saluer.
Ben oui, bien sûr. C'est la grand reine du 93. Non, ça, je fais des blagues, mais dans le sens où...
Ça s'autoproclame en plus.
Les gars me niaisaient beaucoup au Canada.
Je sais.
C'était tellement tannant que des fois, je m'en vais chez moi pour avoir ma bulle, travailler puis être capable d'avancer mes affaires à mon rythme. Parce que sinon, t'as l'air antipathique. T'as l'air de pas vouloir parler aux gens, antisociable. Puis finalement, c'est pas ça le but. Mais tu te fais retarder. Puis même que les études qui parlent des horaires de travail prolongés, c'est associé à diverses formes de maladies, à la fois physique et mentale. On dit que de réduire les heures de travail, ça pourrait améliorer la santé aussi parce que tu te concentres, tu vas chercher quoi faire dans ton temps. Puis bien souvent, en cherchant quoi faire, c'est pas d'être plus longtemps sur le divan, ça va être de bouger, d'aller prendre une marche, d'aller faire une activité, d'aller combler son temps. Ça fait en sorte que les maladies physiques et mentales sont moindres.
Moi, au cours des dernières semaines, j'ai eu 5 jours de congé par semaine. Enfin, mettons 4,5, là. J'ai trouvé ça long un peu.
Ah ouais?
Je me suis retrouvé de l'ouvrage.
Ben, non, mais plus tu fais rien, plus tu trouves des choses à faire.
Oui, mais je me suis retrouvé de l'ouvrage, là. Tu sais, j'ai réparé pas mal tout ce qu'il y avait à réparer, là, où je loge, là.
tout réparé. Claude André dit, je fais 50 heures sur 3 jours et demi depuis quelques années. Génial, lui, il adore ça. Quelqu'un qui dit, j'ai eu une session universitaire de 3 jours de cours et 4 jours de congé de suite. Raccrocher, recommencer à travailler, c'était pénible.
Ouais, c'est ça.
Il y a des gens qui ont de la misère, effectivement, à reprendre le boulot quand ils ont été arrêtés un peu longtemps.
Il y a Pierre, notre agriculteur, qui nous écoute toujours, qui dit, 3-4 jours de travail, c'est décourageant d'entendre ça pour nous. On travaille 7 sur 7. Et c'est vrai, puis il compte pas les heures, eux. Hein?
C'est sûr.
Puis quelqu'un d'autre aussi croit que se réinstaller, c'est une perte de temps.
Oui, t'arrêtes, tu recommences, t'arrêtes, tu recommences. Oh.
Mais ça, c'est parce que dans ces emplois-là où t'as des pauses fixes comme ça, j'ai l'impression que c'est surtout relatif au fait que ton horaire, peu importe ce qui arrive, tu commences à telle heure et tu finis à telle heure. Plutôt que d'avoir des objectifs de performance dans le sens où t'as tant de dossiers à régler aujourd'hui, t'as tant de trucs à faire, t'as une liste, et quand t'as fini, tu t'en vas. C'est tu rentres à 8 heures, puis à 5 heures, t'as fini. Peu importe ce qui arrive entre les deux, de 8 à 5, t'es là. Donc, t'as pas de motivation à pas prendre ta pause. Tu sais, ta pause, t'apprennes ou que t'apprennes pas, t'es pas sorti avant 8 heures. Par contre, si on te dit, coche les 12 trucs qu'il y a là, Alexis, quand t'as fini, tu peux t'en aller. Crois-moi que des pauses, là, il va s'en prendre pas mal moins.
Et de plus en plus, des employeurs acceptent cette façon de travailler-là, dans le sens où, rends-moi pas de compte sur combien d'heures t'as fait dans ta journée, dans ta semaine, j'en ai
fais
rien
que
à faire. Mais rends-moi les dossiers que je t'ai demandé.
Ça, c'est très millénial, ça aussi. Oui. Ça va venir de plus en plus. Puis c'est pour ça qu'il y a plus de travail à la maison, parce que tu peux faire ce que tu veux. Oui. Sac-moi patience, laisse-moi faire mes trucs, juge ce que t'as au bout de la ligne.
Puis même chose aussi pour ceux qui veulent voyager, de plus en plus, il y a des emplois qui te permettent d'aller travailler à l'extérieur, mais d'accomplir tes tâches.
Mais tu vois, il y en a un qui dit lundi, mardi, lundi, oui, mardi, jeudi, vendredi, 40 heures.
Ouais.
Le mercredi, merveilleux, je fais toutes mes commissions.
Ben, le nombril de la semaine, comme on appelle le mercredi, il y a plusieurs personnes qui le prennent justement pour gérer toute la paperasse, le ménage, les commissions. Comme ça, la fin de semaine, ils peuvent vivre pour vrai leur week-end.
Ouais, c'est vrai. Si t'as une journée où tu peux faire autre chose, là, c'est génial. Après ça, t'en profites. Alexis, toi, ta réflexion ce matin?
Ben, ma réflexion part de Météo Média, qui est pour moi une source intarissable de drôles de sujets, où j'ai lu ce titre, « Les humains pourraient-ils hiberner? » Et là, j'ai trouvé ça un peu spécial. Mais ce que j'ai appris, c'est que ça part notamment d'un projet dans l'espace. Parce qu'on s'est rendu compte que pour les astronautes, ce serait drôlement économique que les humains puissent hiberner, parce que quand ils font le voyage dans les navettes spatiales, ils n'auraient pas besoin de se nourrir et qu'ils seraient capables d'économiser pas mal durant un voyage de 6 mois. Et sauf que ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours, parce que ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'on est capable d'imiter les animaux dans le sens où on peut faire baisser la température du corps pour quelques jours. Sauf que là, le défi, ce serait d'être capable de prolonger cet état d'hibernation-là. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que ce ne le sera pas? Ça, c'est de voir. Sauf que dans le domaine de la santé, ça pourrait être un avantage, notamment pour permettre de mieux traiter les cancers quand on expose un corps à des fortes radiations.
Ouais.
Si on était capable de placer la personne en hibernation et de faire diminuer sa température corporelle, semble-t-il que ce serait plus facile. Et que ce serait plus facile aussi pour les donneurs d'organes, parce que il y aurait plus de temps pour trouver un donneur, s'il plaçait la personne qui a besoin d'un don en état d'hibernation.
Ils les mettent souvent en coma artificiel. Ils maintiennent des capacités. On arrive à faire circuler le sang, on arrive à les faire respirer artificiellement en attendant qu'on soit capable de prélever les organes.
Oui.
Ils
Mais
font
oui.
déjà ça. Mais moi, se servir du corps humain comme laboratoire, ça m'énerve un peu.
Ouais, mais c'est
on n'a rien qu'un. Hein?
Et puis qui va lever la main pour dire ouais, moi j'essaierai moi.
Oui, rien qu'un, j'ai 100 ans à vivre dedans là, j'ai l'intention de le faire.
Puis ceux qu'on cite là-dedans, c'est notamment un technicien en chef qui est à SpaceWorks, qui est une grande compagnie d'ingénierie là qui travaille notamment dans le milieu aérospatial. Puis eux, c'est parce que eux ça leur permettrait selon eux d'économiser jusqu'à 70% dans un voyage qu'ils pourraient faire dans l'espace parce qu'il n'y aurait pas besoin de les nourrir pendant qu'ils vont faire le trajet de grosso modo de 6 mois. Puis l'autre chose qui va arriver, c'est qu'attention, moi j'ai dans mon monde de parano, j'ai l'impression que les Greens vont s'emparer de ce mouvement-là. Pourquoi? Parce qu'imagine, si t'es 6 mois à pas consommer de ressources de la Terre, là, on va peut-être pouvoir sauver la planète de cette manière-là.
Oui, c'est parce qu'il faut. Tu veux sauver. En fait, c'est pas vrai qu'on veut sauver la planète, là. Moi, je m'en sacre de la planète, OK?
On veut sauver l'humanité, mais si l'humanité consomme moins.
C'est l'humanité qu'il faut sauver, c'est pas la planète.
Mais vous riez, mais dans mon brasse-coco, il y avait aussi un argument climatique comme quoi si on travaille moins de jours par semaine, il y a moins de taux sur les réseaux routiers, moins de trafic, moins de ci, moins de ça.
On travaille moins. Puis le reste de l'année, on hiberne. Tu vois, c'est la solution parfaite. On va sauver l'humanité, Myriam, ce matin.
N'importe quoi pour être écolo. Vraiment n'importe quoi pour être écolo. Je voulais vous parler d'Hydro-Québec. Le gouvernement Legault a fait quelque chose récemment qui peut nous sembler sympathique. Tu sais, il nous avait promis de nous rembourser les trop-perçus d'Hydro. Là, Hydro a surestimé les tarifs, les revenus de ces tarifs, a demandé des augmentations de tarifs trop élevées à la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie s'est faite fourrer par Hydro-Québec puis a accordé des hausses de tarifs. Et donc, Hydro-Québec se ramasse avec quelques milliards de trop qu'elle a remis au gouvernement, parce que c'est le gouvernement, son fiduciaire. Bon. Et là, à l'époque où il était dans l'opposition, François Legault disait « Il faut que rembourser... Il faut rembourser les citoyens. » Alors, pour rembourser les citoyens, c'est simple. Il faut que tu baisses les tarifs d'Hydro ou bien que tu renvoies un chèque aux citoyens qui étaient abonnés d'Hydro-Québec au moment où on s'est fait voler. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de rembourser les citoyens, mais de la moitié seulement de ce qu'on s'est fait piquer par le gouvernement.
Mais pourquoi?
Ah, ben parce que le reste, j'ai dépensé, là. Ils ont toujours plus de fun avec ton argent que toi. Okay?
L'image de Sylvain me fait toujours rire à ce moment-là. C'est comme si tu vas au restaurant, on ne te sert pas la bonne affaire, tu n'as jamais commandé ça, mais on t'amène la facture quand même. Puis là, tu dis, ben, j'ai pas mangé ça, moi, c'est pas mon repas. Puis il dit, bon, on va te rembourser la moitié.
C'est ça, on t'en rembourse la moitié. Bon. Sauf que il y a maintenant plusieurs experts qui pensent qu'on s'est fait fourrer par François Legault solide. En ce sens que, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit il y a un gel des tarifs en 2020. Puis, par la suite, il y aura une hausse du même niveau que la hausse du coût de la vie. Et là, il y a plusieurs experts qui sont allés dire au gouvernement, lorsqu'il a voulu adopter cette règle-là, c'est parce que si Hydro se présente devant la Régie de l'énergie, ce sont des baisses de tarifs que la Régie va accorder. Non pas un gel. Sont des baisses parce que on a réussi effectivement à faire plus d'argent avec ce qu'on a, etc. Si bien que ils nous échangent un gel de tarifs en nous disant c'est merveilleux, je vous fais un cadeau, alors qu'en réalité, selon notamment Jean-Denis Garon qui est dans le Journal de Québec ce matin, c'est une baisse de tarifs d'1,7% qu'on aurait dû avoir. Et que plusieurs experts sont allés dire au gouvernement non, vous fourrez encore le citoyen là. Ça marche pas. Ce qu'on doit avoir, c'est une baisse de tarifs. Vous pouvez pas dire que pour les 5 prochaines années, ça va être au niveau du coût de la vie, parce que le coût de la vie, il augmente pas égal. L'électricité, ça augmente pas parce qu'on a des surplus. Donc, en théorie, ça devrait baisser si on veut que...
J'ai l'impression qu'on en parle depuis tellement de semaines puis qu'il n'y aura aucun changement par rapport à ça. Personne ne va se faire écouter là-dedans.
Mais on se fait encore une fois avoir.
Parfois, à la fée des
temps. Les politiciens ont toujours plus de fun avec notre argent que nous. Du moins, ils le pensent.
Tout pour ne pas rembourser. Hein? Puis là, on s'en va dans des calculs complexes pour s'assurer que personne ne comprenne ce qui se passe, alors que ça aurait été tellement simple. Prendre un chèque. Bon, vous avez payé combien en trop? Voici votre montant.
Bien, simple, dit comme ça, mais on ne sait pas ce qui se passe dans l'administration. Là.
Ça, c'est notre ami Jonathan Julien qui essaye de passer ça.
Ben oui, mais il faut qu'il aille au BAT.
Ah oui, oui, il est bon, lui, en tout cas.
Et il semble, d'après Garon, que le seul organisme qui appuie le ministre et qui dit « c'est une maudite bonne idée, monsieur le ministre », c'est Hydro-Québec.
Ah ben...
Tous les autres lui disent « non, non, vous êtes en train de fourrer le contribuable encore une fois. » Mais, si tu veux...
Mais dans les monopoles comme ça...
C'est une des choses qui me fait peur avec le développement de la voiture électrique. Je vais me livrer, au lieu d'être manœuvré, manipulé par un oligopole de pétrolières, je risque fort de tomber entre les mains d'un monopole.
C'est pas ce qui est le mieux, hein?
Un monopole d'État, au moins tu choisis tes exploiteurs, tu sais. Il est 7h26.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
De retour dans quelques instants.
FM 93.